cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeudard le 11 janvier 96.
Immédiatement, on sort de la potentialité. validé par le devenir, normalement, et nous conduit à la matière, le devenir le plus lourd, le devenir substantiel. Et l'intelligence découvre que l'être en acte est fin, ou elle découvre que la fin de l'être, c'est l'être en acte, avec ses cinq modalités particulières, l'essai, la recherche du vrai, l'attraction du bien, les opérations vitales et le mouvement. Ceci fait partie de toute l'analyse de la philosophie première. Donc, cette analyse est toujours en acte. Si nous voulons comprendre au terme de cette analyse comment l'un est propriété de l'être substance, de l'être acte, l'un dans le domaine de l'individualité de la substance, l'un dans l'aspect de l'être fin. C'est très important de saisir cette exigence profonde de ce qui est, de ce qui existe en tant qu'il est, d'être un. Et ensuite, entre le jugement d'existence du ceci est et du je suis a commandé toute ma recherche, toute l'analyse. Il faut donc essayer de voir comment le je suis, mon expérience la plus immédiate, se donne à moi dans mon je suis. Vous voyez, c'est curieux et c'est important de saisir cela, que d'une certaine manière, la philosophie première, la métaphysique, est bien la métaphysique de ce qui est et la métaphysique de l'esprit. On pourrait dire que c'est le tragique de la métaphysique, pour répondre à Nietzsche. C'est vrai, il y a un tragique en métaphysique. C'est pour ça que la métaphysique, quelquefois, à la place d'apaiser et de finaliser la recherche, mais qui existe entre ceci et je suis, qui est présent dès le point de départ de ma recherche métaphysique. Je dois me poser la question dès le point de départ. J'opte pour ceci et, sachant très bien que le je suis est toujours présent dans ceci et, qu'il est dépassé. Et je reviens sur le je suis dans tout le problème de la personne. Le je suis a cette qualité particulière d'être ce qu'il y a de plus proche de ma vie intellectuelle, de ma vie spirituelle, de l'esprit. J'ai conscience d'exister. Et j'ai conscience d'exister au plus intime de toutes mes opérations, au plus intime de mon être. Et ayant conscience d'exister, d'être, je me pose la question que représente de particulier cette manière d'exister que je suis. Vous voyez, la propriété de l'être qui est l'un, la propriété d'une certaine manière du je suis, c'est la personne. Je crois qu'on peut dire ça, parce que ça expliquerait que toute la métaphysique, depuis le début jusqu'à son terme, a tout le temps la tension de ces deux niveaux. Et la tension de ces deux niveaux est normale, puisque mon intelligence n'est pas substantielle, alors que, de fait, elle atteint quelque chose de substantiel. Et c'est cette dualité que le néoplatonisme rejette et que l'aristotélisme maintient, parce que c'est la vérité. Mon être, mon intelligence, je veux dire, mon esprit n'est pas mon être. C'est très humiliant, ça, pour mon être. Parce que je ne suis éveillé que par moment. Je ne suis pas tout le temps au niveau de la philosophie première. Si mon intelligence était substance, je vivrais tout le temps au niveau de la philosophie première. Je n'aurais pas cet effort constant de remonter la montre, c'est-à-dire mon intelligence. Et si vous ne faites pas attention, vous savez bien, très vite vous revenez au quotidien. On fait cela ici. On fait cela ici. Le « on » remplace le « je suis » d'une manière terrible et met alors une espèce d'anonymat au niveau de l'être. C'est l'ennemi le plus terrible de l'être, cet anonymat. C'est le « on ». Parce qu'on dit c'est universel, c'est général. Vous voyez, c'est le général, c'est-à-dire l'universel, quant à son mode, qui remplace le point de vue de la personne qui est toujours singulière et qui est toujours unique. Et c'est pour ça que c'est si important de maintenir à travers toute l'analyse métaphysique ce passage ou cette tension de ce qui est et je suis. Alors, c'est bien évident que quand je suis dans l'analyse métaphysique, c'est ce qui est premier. il n'y a pas d'analyse du « je suis ». Alors, si vous n'avez pas l'analyse faite au niveau de ceci, vous avez une métaphysique descriptive, c'est-à-dire périphérique. Vous tournez indéfiniment autour de l'être, sans jamais pénétrer dans l'être. Mais, exemple, celui qui fait 50 fois le tour de Paris sur le périphérique, il dit « je connais Paris ». Et c'est comme ça, la plupart de ceux qui disent qu'ils font de la métaphysique restent sur le périphérique. Vous n'avez qu'à leur poser une question. Vous voyez, ils n'ont pas compris. Ils restent sur le périphérique. On décrit. Le périphérique se décrit. Il y a toutes les portes. C'est descriptif. Mais vous n'entrez pas dedans. C'est très important à saisir que seul le jugement d'existence, s'il est premier, permet l'analyse. S'il n'y a pas cette primauté du jugement d'existence, ceci est dans toute sa force, vous n'analysez plus. Et vous demeurez dans une métapsychologie qui reste une psychologie. C'est-à-dire vous restez dans le conditionnement. C'est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus facile. Tout le monde peut décrire, même la description du « je suis ». On peut le décrire, mais on ne saisit pas. C'est-à-dire qu'on ne saisit pas ce pourquoi l'être est acte. Qu'est-ce que ça veut dire, la finalité ? Alors ça, je crois que dans tout ce que nous faisons, dans cette étude de la personne, il faut tout le temps, revenir à l'analyse métaphysique pour que nous ne restions pas à un niveau descriptif, tout en que le « je suis ». Il est tout proche.
Je peux voir votre micro, mon père.
Tiens.
Non, il y a des sautes de son.
Dans mon « je suis », de mon autonomie spirituelle. Dieu est avec moi, ou Dieu est plus présent à moi-même que moi-même, je ne suis présent. Et donc, je ne suis jamais seul. Ce sera le moment où, passant de la découverte première de la personne, je saisis, grâce à la découverte de l'existence de Dieu et la découverte du Créateur, je découvre à ce moment-là le dépassement de mon isolement, mon dépassement de ma solitude, tout en restant au niveau métaphysique. Je saisis alors à ce moment-là comment mon autonomie est relative. Et c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire pour une créature. Mais c'est contradictoire pour l'être. C'est sûr. Celui qui est seul n'est pas relatif. Celui qui est premier est toujours seul, puisqu'il est premier. Et donc, ce n'est pas celui qui suit qui lui fera comprendre ce qu'il est. Or, mon autonomie, elle est dans le fait que mon âme est ma substance. Et parce que mon âme est ma substance, elle est première dans l'ordre de l'être. Et si elle est première dans l'ordre de l'être, personne n'atteint cette substance en dehors de moi. On l'atteint métaphysiquement, c'est-à-dire on l'atteint par ma propre expérience. Je dis que tout homme, nécessairement, du fait même qu'il existe, a une source immanente de son être. C'est son âme. Et ça, c'est l'affirmation universelle. Ce n'est pas le « on », mais c'est l'affirmation universelle. Et cette affirmation universelle prend toute sa force quand je découvre que je suis moi dans mon âme. Et c'est mon âme qui me permet de dire « je suis ». Si je n'avais pas d'âme spirituelle, je ne pourrais pas dire mon « je suis ». Vous voyez, je touche d'un toucher métaphysique. Je touche la profondeur de mon être dans l'autonomie de mon âme qui est première. Et donc, qui a bien cette source d'isolement. Je suis un être seul. Et c'est vrai. Et ça peut me donner alors une angoisse terrible. Pour certains, ça ne doit pas l'être. Mais si l'imagination remplace le regard métaphysique, ça m'angoisse. C'est la source de toutes les angoisses. La source de toutes les angoisses, c'est d'être seul. Mais comprenons bien, quand je saisis métaphysiquement mon âme et mon autonomie, ce n'est pas l'angoisse. C'est au contraire la détermination fondamentale de mon autonomie. Je suis, et je suis seul, à pouvoir saisir mon autonomie. Ma détermination fondamentale, si l'imagination se mêle à cela, or vous savez très bien que la pénétration métaphysique étant quelque chose de très subtil, très vite l'imaginaire s'introduit. C'est vrai. L'imaginaire métaphysique, c'est le plus terrible des imaginaires. Et c'est la source de cette angoisse. Il faut dépasser ce point de vue imaginatif pour que cette solitude de mon être ne m'angoisse pas. Puisque cette solitude provient d'une détermination et non pas d'une indétermination. C'est l'imaginaire qui me fait croire que c'est l'indéterminé. Vous voyez, il y a une espèce de d'anti-vision métaphysique par où constamment je dégringole parce que j'ai de la peine à rester dans le je suis lié à ceci. J'ai de la peine à saisir dans le je suis l'être du je suis. Parce que si je reste dans le moi coupé de l'être, c'est l'imaginaire, c'est le sentiment de mon isolement. Et le sentiment de mon isolement est toujours très proche du sentiment d'autonomie. Tandis que la véritable autonomie n'engendre pas l'angoisse. La véritable autonomie donne une stabilité, puisqu'elle est déterminée, puisque ça implique une détermination fondamentale et radicale. Cette autonomie du « je suis » est capitale à saisir. Il faut tout le temps y revenir. C'est une expérience du « pose », du « man », du « comment » de mon être, de ma substance, de mon âme. Et vous comprenez très bien que ce toucher de ma manière d'être dans mon autonomie métaphysique implique la saisie radicale de la substance. C'est bien cette saisie radicale de la substance, principe selon la forme de ce qui est, qui me permet ce dépassement du moi. Et qui permet alors à l'expérience que j'ai du je suis de prendre toute sa force et de ne pas me laisser glisser dans l'angoisse. Parce qu'au fond, l'angoisse provient toujours d'une victoire de l'imaginaire sur l'être, sur l'intelligence. Toute angoisse est dans l'ordre métaphysique. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une angoisse métaphysique. Elle n'est pas du tout métaphysique. Il n'y a pas d'angoisse métaphysique, puisque toute angoisse provient de l'imaginaire. Mais elle est victorieuse de la pénétration métaphysique. Alors parce qu'elle est victorieuse de l'autonomie métaphysique de mon âme, de ma substance, je l'appelle métaphysique. C'est très curieux, ça, de bien saisir cet aspect de perte de l'autonomie métaphysique remplacée par l'angoisse imaginative qu'on dit métaphysique, et qui n'est pas métaphysique, puisqu'elle reste dans l'ordre de l'imaginaire. Et c'est l'imaginaire qui supprime toutes les déterminations. C'est le propre de l'imaginaire, puisque le propre de l'imaginaire, c'est d'être un domaine du relatif qui va toujours plus loin. Il n'y a pas de premier dans l'imaginaire. C'est toujours relatif. Et donc, parce que c'est toujours relatif, vous avez donc une saisie de l'isolement. Parce que l'isolement, c'est bien cela. L'isolement, c'est celui qui ne saisit plus le principe, le premier, l'absolu, et qui se saisit dans la relativité absolue. Première saisie du je suis, c'est cette autonomie métaphysique. Vous voyez, toute la différence entre le sentiment du moi de Charles Audier quand il parle premier sentiment du moi fort, l'autonomie, toute la distance qui existe entre cette autonomie du moi psychologique et cette autonomie métaphysique. Au fond, il n'y a pas d'autonomie psychologique. Le mot autonomie n'est vrai qu'au niveau métaphysique. Au point de vue psychologique, ce serait la négation. Je ne suis pas relatif. Mais la saisie de l'autonomie ne peut être qu'au niveau métaphysique. Je ne suis pas relatif. Je suis premier. Personne n'est devant moi. C'est négatif. Dans la mesure où dans le je suis, l'esprit émerge et me donne la conscience, mais une conscience qui n'est pas d'ordre psychologique, c'est-à-dire qui n'implique pas une relecture du vécu qui est seconde, mais une conscience qui est en acte. La conscience même de l'intelligence comme intelligence. L'intelligence ne retourne jamais en arrière. Vous voyez, la relecture est un retour en arrière. Elle est dans le temps. C'est là la différence entre la conscience psychologique qui implique la relecture et la conscience métaphysique qui est dans l'acte. Ceci est jamais une relecture de l'être, puisque pour avoir une relecture, il faut être dans le devenir, forcément. Et on va à Paris, on revient de Paris, relecture. Je vais à Paris, et j'ai eu une vision de tout le paysage jusqu'à Paris. Et je sais que si je reviens de Paris, j'ai une relecture toute différente, puisque tout est inversé, forcément. Ce qui était dernier devient premier, et ce qui était premier devient dernier. Enfin Jésus, enfin Saint Jodard. Quand je pars de Saint Jodard, Saint Jodard est tout proche, Paris est loin. Quand je pars de Paris, Paris est proche, Saint-Jodard est loin. C'est le devenir qui fait ce point de vue de distance. Il n'y a pas de distance dans l'être. Et donc, la saisie de l'acte, point de vue intellectuel, au point de vue métaphysique, est immédiate. Et j'ai conscience de cela. Ça, c'est très important pour saisir comment la recherche de la vérité au plan intellectuel structure la personne. Il faut bien comprendre ça. C'est un point très important pour bien saisir le lien entre métaphysique, saisie de l'être en acte, et du je suis, conscience que j'ai de cet acte. Eh bien, c'est le lien entre les deux qui est la structure de mon esprit. La structure implique une conscience de l'esprit. Quand je n'ai pas conscience, je ne suis pas structuré. Je suis en puissance. Je suis un errant. expérience très simple qu'on peut tous faire. On vous bande les yeux. On vous fait tourner indéfiniment. Vous savez plus où vous êtes. C'est ce que vous avez de temps en temps comme expérience la nuit quand vous vous réveillez dans un cauchemar et fait noir. Et que c'est la première fois que vous dormez dans cette chambre. Vous savez plus où est le lit, où est la fenêtre, où est la porte. Vous tournez en rond. C'est l'errance. Il n'y a pas de conscience. Et quand il n'y a pas l'intelligence qui cherche la vérité, vous êtes dans l'errance. La non-structure de la personne. Oui, l'aspect négatif nous aide à comprendre que seule la recherche de la vérité finalise mon intelligence. Alors faites bien la différence entre la vérité qui finalise votre intelligence et le bien qui finalise la personne. Ça, ensuite, il faut d'abord regarder comment cette recherche de la vérité finalise mon intelligence et structure ma personne. Et ceci, c'est très important de maintenir toujours cet aspect de recherche. Parce que c'est cet aspect de recherche qui vous montre que mon intelligence n'est pas substantielle. Et cependant, elle est acte dans la vérité. Elle n'est pas substantielle. Si mon intelligence était substantielle, la vérité serait mon unique finalité. Jamais de plafond métaphysique, il n'y en a pas. Le seul plafond métaphysique, ce serait Dieu, qui n'est pas un plafond, qui est une source. Parce qu'un plafond, c'est fatigant. Vous heurtez la tête dessus. Et puis, c'est une limite. C'est une limite, un plafond. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Alors ça, c'est imaginatif. L'imagination joue, hein. Quand on est fatigué intellectuellement à cause de mon condition corporelle, l'imagination est très forte. Et vous dites, il faut m'arrêter. Ça ne sert à rien. Je ne vois plus rien. Il faut m'arrêter. Il faut avoir la sagesse de s'arrêter. Celui qui s'obstine à continuer perd du temps. Vous êtes suffisamment lucide pour savoir que oui, mon intelligence n'est pas mon être. Si mon intelligence était mon être, je n'aurais jamais de fatigue. Si mon intelligence était substantielle, je n'aurais jamais de fatigue. Je serais dans l'autonomie la plus parfaite qui soit. l'éternité implique un devenir. Je cherche quand je n'ai pas, quand je ne possède pas la vérité. Quand vous possédez la vérité, ou quand vous êtes possédé par la vérité, vous ne recherchez plus. Et ça y est, j'ai compris. Mais la recherche de la vérité manifeste le devenir. Manifeste le devenir de mon intelligence. Et le devenir de mon intelligence montre qu'elle n'est pas substantielle. Qu'elle implique des opérations successives. Que ces opérations successives sont au-delà du devenir physique. Sont au-delà de l'opération vitale. C'est un devenir dans la recherche de l'être. C'est pour ça que c'est un devenir très particulier, la recherche de la vérité. Parce que normalement, l'être est au-delà du devenir. Et vous vous apercevez, votre « je suis », que votre être va impliquer un devenir. Vous devenez intelligent. C'est sûr. Dans la mesure où vous découvrez la philosophie première, vous devenez intelligent. Et ça nous encourage. Ça structure mon intelligence. Quand je deviens intelligent, je saisis les différentes étapes. Je saisis comment l'analyse philosophique est nécessaire pour arriver au terme, la vérité. Le devenir de l'intelligence, c'est la structure de l'intelligence. Si mon intelligence était substantielle, elle serait une sans structure. Parlez pas de la structure de Dieu quand même. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit Saint, c'est la structure de Dieu. Non, ils sont un. Ils sont trois, ils sont un. Vous n'y comprenez rien, vous n'avez rien, c'est ça. Parce que si vous le compreniez, les trois comme distincts de l'unité, vous direz, c'est la structure de Dieu. Premier salon, deuxième salon, troisième salon, structure. C'est pas ça du tout. Ils sont un. En Dieu, il n'y a pas de structure. Il est absolument simple. Tandis que vous, si vous dites, j'ai pas de structure, je suis tellement intelligent que je n'ai pas besoin de structure, vous tombez dans l'idiotie. Espèce d'idiot qui veut être semblable à Dieu tout de suite. Moi, je suis tellement intelligent que mon intuition suffit. Alors, c'est, vous avez à ce moment-là abdiqué la recherche de vérité. Et vous laissez l'imaginaire tout envahir. Ça devient l'intuition. Seul l'aspect mystique, divin, peut me mettre au-delà de la structure. Mais c'est pas moi qui m'y mets. Si je m'y mets, je fais une faute. Moi, je reviens tout le temps dans mon labeur de recherche philosophique, de recherche de la vérité. Mais c'est très important, ça, de comprendre que seul Dieu est absolument saint. Et que dès qu'on parle de recherche de vérité, on parle de structure de l'intelligence. C'est la même chose. Et cette recherche de la vérité présuppose l'analyse. Ce n'est pas l'analyse qui structure, c'est la recherche de la vérité qui structure. Pourquoi ? Parce que l'analyse est diverse. Et il n'y a pas un fil conducteur qui conduit. Vous voyez, si l'intelligence ne fait qu'analyser, je risque de confondre la structure et le labyrinthe. Un labyrinthe, il n'y a pas de structure. Il y a une salle, une autre salle, une troisième salle, une quatrième salle, un plafond, une cave, je sais pas. Labyrinthe. Il faut des flèches qui indiquent. Quand il y a beaucoup de salles, il faut des flèches. Autrement, vous savez pas où aller. Il y a des flèches parce qu'il n'y a pas de structure. S'il y avait une structure, il n'y aurait pas de flèches. Vous n'avez pas besoin de flèches dans votre intelligence. Absolument pas. Votre intelligence sait où elle est à chaque moment de son analyse. Mais qu'est-ce qui fait le lien profond de toutes ces analyses? C'est la recherche de la vérité. C'est la finalité. Parce que la vérité est fin de mon intelligence. Elle organise, elle structure toutes ces analyses qui sont structurées dans mon intelligence et qui s'arrêtent quand j'atteins la vérité. La vérité me permet un repos. C'est pour ça qu'elle est fin. Quand j'atteins la fin, je me repose. Quand j'ai conscience d'atteindre la fin, je me repose. Tant que je n'ai pas conscience d'atteindre la fin, je suis tendu. Celui qui ne recherche pas la vérité reste tendu. La grande manière de se détendre, c'est la recherche de la vérité. Parce que une structure de l'intelligence maintient dans l'intelligence toute sa vitalité. Sa complexité, mais son unité. C'est pour ça que c'est si important de saisir comment la recherche de la vérité maintient dans ma recherche l'unité, le dynamisme profond. Je vais vers la vérité. Et si je vais vers la vérité, c'est parce que j'ai déjà découvert ce qu'est la vérité. Si vous n'avez pas découvert déjà ce qu'est la vérité, vous ne cherchez pas la vérité. Mais la parole de saint Augustin à propos de Dieu est vraie par rapport à la vérité. À sa manière, analogiquement, tu ne m'aurais pas cherché si tu ne m'avais pas déjà découvert. C'est Dieu qui dit ça à celui qui le cherche. Si tu ne m'avais pas déjà découvert, tu ne me chercherais pas. C'est très vrai. Oui. C'est comme celui qui désire avoir la foi et qui dit qu'il n'a pas la foi. Puisqu'il désire avoir la foi, il a la foi. Celui qui cherche Dieu a déjà découvert Dieu. Celui qui cherche la vérité a déjà découvert la vérité. Et donc la vérité est au point de départ de toute cette recherche de la vérité. Et c'est par là qu'elle structure l'intelligence. S'il n'y a pas cette connaissance de vérité au point de départ, il n'y aura pas de recherche de vérité, il n'y aura pas de structure. Il y aura un labyrinthe. Alors je mettrai des flèches. Et mettre des flèches, c'est la logique, c'est la dialectique. Ça se fait de l'extérieur et ce n'est pas de l'intérieur. Une intelligence limpide se structure elle-même dans la recherche de la vérité. Ce n'est pas la logique qui me fait rechercher la vérité. C'est la philosophie première. La logique, elle met des flèches. Elle donne des méthodes sur les flèches. Pour éviter le labyrinthe. Et les flèches laissent le labyrinthe. Puisque c'est de l'extérieur. C'est un art qui vient s'ajouter à la recherche de l'intelligence. Qui vient l'aider. Alors la logique a du bon là où la structure de la vérité ne suffit pas. Pour toutes les vérités relatives, humaines, la logique est nécessaire. Dès que j'atteins l'être, personne humaine ne peut saisir que dans la recherche de la vérité. Puisqu'elle implique nécessairement une intelligence qui a atteint la vérité. À au moins un niveau, peut-être encore très faible, mais il y a un niveau. Et parce que j'ai atteint la vérité, j'ai soif de cette vérité et d'aller plus loin. Et donc il y a une recherche de l'intérieur, naturelle, instinctive, de l'intelligence qui cherche la vérité. Donc vous êtes obligé de dire à quelqu'un, cherche la vérité, fais de la philosophie. Ça prouve que vous n'avez pas encore découvert cette recherche de la vérité comme étant la vie propre de votre intelligence. Votre intelligence respire quand elle cherche la vérité. C'est la respiration de l'intelligence. Et cela, ça se fait, j'allais dire, naturellement. Le désir naturel de voir Dieu. C'est le terme de la structure. Le désir naturel de voir Dieu. C'est la recherche de la vérité lorsqu'elle a de plénier et d'ultime. Il faut donc comprendre que la personne humaine, dans son développement, implique recherche de vérité. Dans son développement propre de personne humaine, implique que l'intelligence ait saisi ce qu'est la vérité et qu'elle désire aller toujours plus loin dans cette saisie de la vérité. Et ce désir d'aller toujours plus loin dans cette saisie de la vérité, c'est bien la recherche même de la vérité. Et c'est ça qui structure ma personne. Il n'y en a pas d'autre. La structure de la personne ne peut être qu'immanente. Vous voyez, les méthodes ne structurent pas la personne. Peut-être que les méthodes aident l'efficacité du travail, mais ne structurent pas la personne. L'ordinateur ne structure pas la personne, ne peut être qu'un instrument extrinsèque pour l'efficacité, et dans l'ordre de l'efficacité. Mais il y a un danger, c'est que l'ordinateur peut me faire croire qu'il remplace la structure de la personne, puisque tout est ordonné, mais d'un ordre matériel, pas d'un ordre immanent. La recherche de la vérité est un ordre immanent. C'est mon intelligence qui s'organise elle-même pour aller plus loin. C'est mon intelligence qui s'actue elle-même pour aller toujours plus loin. Et c'est vrai, l'intelligence s'actue par la recherche de la vérité. Parce que c'est la fin qui actue. Et la vérité est fin de mon intelligence. Alors distinguons bien ça. Fin de mon intelligence et fin de la personne. La finalité de la personne, c'est le bien. C'est l'ami. Mais pour que cette finalité de la personne puisse ne pas être encombré par l'imaginaire, il faut que l'intelligence soit au service de cet amour. On verra comment l'amour ne structure pas. Alors vous verrez mieux quand vous comprendrez que l'amour ne structure pas. Vous verrez mieux comment la seule structure de ma personne humaine, c'est cette recherche de la vérité. Parce que c'est vrai que c'est pas commode à saisir. Parce que quand vous êtes en pleine recherche, vous n'avez pas du tout l'impression de structurer votre kilomètres, Dijon dans le kilomètre. Très bien, c'est des flèches qui vous indiquent ça dans le noir. Alors, c'est très utile d'avoir ça. Mais quand vous avez déjà fait le trajet, vous le connaissez, vous n'avez pas besoin. Vous connaissez, vous êtes ordonné intérieurement. Et c'est ça la structure, ordonné intérieurement. Et l'intelligence sait et connaît les différentes étapes. Elle sait tout de suite à quel moment la substance est saisie, mon âme. Elle sait très bien ce que c'est que la saisie de l'acte. Cette recherche de la vérité implique tous ces éléments. Oui. Si mon intelligence était substantielle, elle n'aurait pas besoin de se structurer. Réfléchissez là-dessus. Alors comme ça, vous éviterez de dire que votre intelligence est substantielle. Et vous comprendrez que votre intelligence implique un devenir. Donc, elle n'est pas substantielle. C'est la grande découverte d'Aristote face à Platon. C'est la grande découverte d'une philosophie réaliste face à Hegel.